Les Balados OIC, un projet de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, en collaboration avec Figura, le centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, vous propose aujourd'hui un épisode de la série Pop en stock transatlantique.
Chers auditeurs et auditrices, popophiles, popovores, popophages de tout poil, nous voici réunis à nouveau pour une nouvelle émission de Pop en stock, format transatlantique et zoomesque qui nous permet aujourd'hui de nous déplacer encore une fois de l'autre côté de l'Atlantique justement. Et nous avons la chance, le plaisir, l'honneur de recevoir à nouveau deux grands chercheurs, donc Anne Besson. Bonjour Anne.
Bonjour à tous.
Denis Mellier, grand spécialiste de Lovecraft, entre autres. Et nous accueillons pour la première fois William Blanc, spécialiste, entre autres, de la légende arthurienne et ses déclinaisons transhistoriques et contemporaines, et spécialiste aussi du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Et ce sujet, c'est les politiques de l'imaginaire. C'est un sujet que nous avons évidemment traité maintes fois par la bande et par la force des choses, de par la place que la politique a dans les genres de l'imaginaire depuis toujours, mais plus concrètement dans ses itérations les plus récentes. Et le sujet de l'émission est né d'une réflexion autour des paradoxes de la politisation de l'imaginaire, des genres de l'imaginaire. À l'occurrence, par rapport à Lovecraft, c'était la fusion entre horreur, fantasy, science-fiction et la politisation qui devenait l'enjeu, sinon principal, en tout cas un enjeu tout à fait manifeste des œuvres, alors qu'en général, la tradition notamment de l'horreur, l'horreur lovecraftienne dont le titre se revendiquait et non pas tant l'œuvre, c'était plutôt un contenu latent. L'idée que la politique était plutôt une sorte de jeu de cache-cache. Donc, on s'amusait depuis les années 50, les critiques s'amusaient à trouver la politique dans le fantastique, à trouver la politique dans Dracula, à trouver la politique dans les films de tarentules géantes et dans les Hobbits et les aventures de la Terre du Milieu. Et puis, donc, c'était l'idée plutôt qu'on était dans un registre soit symbolique, soit quand c'était très poussé, comme dans Narnia, etc., dans un registre plutôt allégorique ou allégorisant, et alors qu'avec des œuvres plus contemporaines, le politique devenait un enjeu explicite, donc manifeste des œuvres. Et on se posait la question, est-ce que ça marche si bien pour l'imaginaire? Est-ce que ça change ces genres? Est-ce qu'à l'inverse, il n'y a pas aussi une sorte d'influence de ces genres de l'imaginaire sur la vision du politique contemporain avec toutes ces nouvelles générations qui militent à travers la réappropriation, etc., des œuvres et aussi des genres, des références pop, etc. L'idée de cette émission était inévitable et nous avons donc pu contacter William Blanc qui travaille aussi très récemment deux grands ouvrages sur la question du politique. D'un côté, Super-héros, histoire politique, une histoire politique, et Winter is coming, petite histoire politique de la fantasy. Nous allons justement donner la parole à William. William, qu'est-ce qui t'a amené à traiter donc le politique à la fois finalement dans le genre super-héroïque et dans le genre de la fantasy?
Bah, je vais essayer d'être très bref. Le truc, c'est que vraiment, c'est la première chose, c'est un point de vue assez personnel, c'est que c'est un peu une revanche de geek, en fait. Voilà. Quand j'étais ado, quand je disais du Tolkien, on disait que c'était un truc pour où je disais des Stranges ou des Titans, voilà, on disait que c'était un truc de gros débile. Voilà, bah, c'est un peu une manière de dire, bah, en fait, non, en fait, voilà, en fait, il y a des choses, il y a des contenus politiques dedans, il y a des propos qui sont parfois très profonds, qui parlent de choses très actuelles dans tout ce type de littérature, dans tout ce type, dans tout ces médias-là. La seconde chose, c'est que c'est aussi tout bête, c'est aussi une formation d'historien, en fait, hein, c'est qu'on insiste beaucoup sur l'étude dans le contexte. Donc, quand on commence, à partir d'un moment où en fait, on s'intéresse même à n'importe quelle source, en fait, hein, et en fin de compte, Tolkien, ça peut être pris comme une source historique, les récits de super-héros, ou les films de super-héros, ou les séries de super-héros peuvent aussi être pris comme des sources historiques, eh bien, ces sources-là, de facto, révèlent des choses par rapport à leur contexte de production et de réception. Donc voilà, en fait, à partir de là, je me suis quelque part aussi un peu amusé à faire mon travail avec des sources qui ne sont pas inédites non plus pour les historiens. Il y a des historiens qui ont travaillé un peu sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que voilà, en France, on a peut-être un peu plus de mal, en tout cas pour les historiens, à se plonger là-dedans, voilà, étant fan moi-même de ce type de littérature, que ce soit la fantasy, les super-héros, la SF, ben je me suis plongé dedans, en fait, hein, donc ça ne me pose aucun problème, quoi. Donc voilà, puis après, il y a plein de choses, en fait, hein. Il y a aussi le fait que, là, c'est marrant, parce que j'ai eu la réflexion il y a 2-3 jours avec un journaliste, en fait, hein, qui me disait, mais en fait, enfin, vous ne trouvez pas qu'en ce moment, il y a beaucoup de politique dans la culture populaire, en fait, quand on fait un peu d'histoire de culture populaire sur un temps long, en gros, moi, vraiment, je prends comme point de départ plutôt le 19e siècle. Bon, bah, dès le 19e siècle, il y a des œuvres de culture populaire qui ont un usage, qui ont une réception politique, hein. Il suffit de voir comment Les Mystères de Paris de Gènsus, enfin, ce feuilleton-là est lu dès sa publication de manière politique, en fait. Hein. Donc, bon, voilà. Donc,
Que Karl
c'est pas.
Marx casse d'ailleurs, c'est assez.
Oui,
Dans la Sainte
parce que.
Famille, c'est un des rares moments où Marx et Engels s'intéressent à la culture populaire, et c'est pour le casser et au fond défendre Balzac, qui lui est monarchiste, alors que Sue est devenu socialiste en écrivant Les Mystères de Paris, ce
Ouais,
qui commence un peu sous le signe du paradoxe, en fait, le rapport entre politique et pop.
t'as entièrement raison. Puis en plus, c'est même, c'est une analyse que va reprendre Umberto Eco, en fait, en fin de compte, l'analyse de Marx, l'analyse qu'a fait Marx, hein, c'est en fait, en gros. Puis après, c'est toute l'école de Francfort, en fait, hein, que tu vas avoir une espèce de distinction entre culture populaire et culture de masse et tout. Voilà. Donc ça, c'est des questions en fait qui ne sont pas nouvelles, en fait. Voilà. Donc en fin de compte, ça traverse les sciences sociales depuis le 19e siècle. Hein. Donc voilà, modestement, moi, je me mets là-dedans, en fait. Hein, je me mets dans cette continuité-là, quoi. Donc bon, voilà. Donc, et puis c'est vrai que c'était en fin de compte assez amusant. Même, je pense, au-delà du fait d'être amusant, et je finirai là-dessus, c'est que c'était aussi un peu urgent, parce que quand tu as des genres comme ça, comme la fantasy, là-dessus, on pourrait renvoyer aussi au dictionnaire de la fantasy qui est dirigé à Anne aussi. Hein, donc,
Oui, vous avez collaboré, oui.
ouais, j'ai commis quelques entrées dedans. Et le truc, c'est que quand on a des genres comme la fantasy, comme les super-héros qui sont partout, en fait, voilà, qui ont une énorme, enfin, qui sont extraordinairement populaires et qui ont une espèce de, voilà, qui ont un poids quand même, hein, dans la consommation d'œuvres de masse et tout, qui est énorme. Ne pas s'interroger dessus, ça devient un peu problématique aussi quand on fait des sciences sociales, quoi, en fait. C'est donc, à mon avis, il fallait aussi, faut aussi le faire, et il faut le faire de plus en plus massivement, quoi. Encore une fois, je suis fort heureusement pas le seul, mais c'est vrai qu'en France, du côté des sciences historiques, voilà, ça peine encore un peu, quoi, je trouve. C'est
C'est
voilà.
très intéressant parce que je pense que justement, il y a tout un influx intéressant de l'histoire culturelle, au sens de l'histoire culturelle, qui est en train d'alimenter la réflexion sur la pop, qui était plus partie, évidemment, des cultural studies, de la sémiologie et tout ça, et l'apport de l'histoire avec Dominique Khalifa, récemment décédé malheureusement, etc., est aussi en train de donner justement cette perspective dans la durée qui est très intéressante et qui était un peu parfois gommée par tout simplement les études pop d'œuvres très synchroniques, disons.
Ouais.
Mais est-ce que au niveau de l'historien, justement, par rapport à ce qui intéresse plutôt Anne dans le pouvoir de l'enchantement, qui est plutôt le tournant contemporain. Est-ce qu'en tant qu'historien, il y a quand même quelques spécificités de ce tournant contemporain, que ce soit du côté de la fantasy ou que ce soit du côté des super-héros?
Bah, là-dessus, c'est la spécificité, je pense, une des spécificités déjà qui est importante pour moi, c'est la mondialisation, en fait, hein, de ces cultures-là. C'est qu'en fait, quand on commence, voilà, si on parle des super-héros, par exemple, dans les années 30-40, même s'il peut y avoir des variations après, parce que quand apparaissent ces super-héros, en fait, c'est pareil, c'est un serpent de mer, on n'a pas fini d'en discuter et on n'en finira jamais. C'est un peu quand finit le Moyen-Âge aussi, hein, donc voilà, donc c'est un peu, c'est des questions. Mais je pense que sur ce tournant contemporain, le truc, c'est que voilà, c'est la mondialisation qui, pour moi, est extraordinairement intéressante, parce que ça induit un changement, voilà, un changement de représentation, un changement d'usage qui est, voilà, quoi, et puis aussi, c'est mondialisation, ça veut dire aussi multiplication des médias aussi. C'est un autre truc, en fait. Ça, c'est des choses sur lesquelles moi, je ne suis pas non plus un grand spécialiste, hein, en fait, hein, tout ce qui est côté transmédial, les choses comme ça, mais c'est vrai que ça, à mon avis, ça touche beaucoup, en fait, hein, et que la diffusion de la culture populaire, autant par exemple, si on reprend le cas de Gensu, bah, Gensu, ça va être uniquement par la presse, en fait, hein, donc par la presse quotidienne, hein, je crois que c'était publié de manière quotidienne, hein, je pense, les feuilletons, mais les feuilletons de Mystères de Paris, mais c'est par la presse, en tout cas, c'est par la presse, la presse. Aujourd'hui, des univers de l'imaginaire, sont des univers multimédia ou transmédia, en fait, voilà. Donc, en fait, ça touche plein et ça touche plein. Et ça, pour le coup, ça change, à mon avis, beaucoup de choses, quoi. Donc,
Et dans le signe, parce que, par exemple, ayant travaillé sur la fantasy, c'est un genre que globalement, on avait perçu du côté des gens de science-fiction plutôt. Sur un plan politique, la fantasy avait souvent été accusée d'être nostalgique, d'être anti-moderne, de célébrer la prémodernité, etc., etc. Et est-ce que tu crois que ce régime ancien, disons, qu'on retrouve chez Lewis, Lewis, Charles Williams et Tolkien, est-ce que tu penses que ça a changé récemment ou est-ce qu'on est encore dans cette lancée?
Alors là, je pense que ça a changé parce que après, ouais, parce que c'est pareil, c'est cette espèce d'accusation. En plus, c'est un peu une accusation parfois un peu. C'était un peu facile et tout. Et puis, à mon avis, c'est, en plus, c'est très, à mon avis, hein, c'est très francophone aussi, ça, en fait. Hein, donc, et quand je dis francophone, je pense à mon avis. Je ne sais pas quelle était la situation, le propos qui était tenu par rapport à la fantasy au Québec dans les années 60, 70, 80. Mais par contre, c'est clair qu'en France, il y avait cette espèce de mépris de la part du fandom de SF, hein, qui était, voilà, qui voyait la fantasy non seulement comme un truc réactionnaire, mais en plus comme une importation anglo-saxonne. Et là, il y avait une espèce de rejet avec un brin d'anti-américanisme qui était quand même, assez, voilà, à mon avis, assez important, quoi. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense que, sincèrement, je pense que cette idée, en plus, l'idée que Tolkien soit réactionnaire, ce qui est assez frappant, c'est que ce n'est pas vraiment Tolkien qui a changé ça. Enfin, voilà, c'est pas, Tolkien, c'était un conservateur. Voilà. Et en plus, quand on lit ses lettres, en fait, hein, là-dessus, on voit qu'il était, enfin, la politique, ça lui passait vraiment. Enfin, c'était quelque chose qui n'intéressait pas du tout. Voilà. Donc,
Il voulait pas la lecture,
voilà.
il voulait pas la lecture politique de son
Voilà.
œuvre
Il
et il
supportait pas
réfutait
ça.
les
Ouais.
analogies entre Sauron et Hitler,
Voilà.
etc.
Voilà. Il supportait pas ça et tout. Alors après, le truc, ça n'empêche pas d'en faire, en tout cas, d'avoir, de remettre son œuvre dans un contexte politique. Mais là où c'est intéressant, c'est que l'œuvre de Tolkien va être politisée par son public. En fait, à partir des années 60, hein, voilà quoi, c'est que c'est notamment sur les campus américains, quand Tolkien va être publié aux États-Unis, dans ces campus américains des années 60, très bouillonnants, très politisés et tout, l'interprétation qu'on va faire de Tolkien, c'est la modernité industrielle, c'est mal, en fait, voilà. Donc, et donc, en plus, à l'époque, tout ce qui est industrie, ça renvoie aussi à la guerre au Vietnam, ça renvoie à plein de choses et tout. Donc, on fait une espèce de, voilà. Puis, les hobbits qui n'aiment pas la guerre, qui veulent rester chez eux en train de fumer de l'herbe à pipe, eh bien, ça fait une espèce d'écho avec les hippies qui veulent, voilà, qui n'aiment pas la guerre et qui veulent vivre en communauté.
C'est un cas très intéressant
Ouais.
de l'esthétique de la réception, puisque c'est vraiment une réception totalement différente à celle qu'aurait pu imaginer Tolkien lui-même, par rapport au thème de l'insularité britannique, etc., alors que c'est plus les campus des États-Unis. Donc on est déjà dans une configuration culturelle très, très différente. Et puis, et comme tu dis, on passe de la Britishness, de la petite ville
Ah, c'est ça.
anglaise, à la au hippie qui fume du pot à longueur de journée. Donc c'est vraiment très très différent
Ouais,
comme
et ça, tu vois, à mon avis, ça c'est pareil, c'est une des grandes nouveautés aussi, et ça, alors. Je pense que Anne en parlera mieux que moi parce qu'elle connaît mieux le sujet que moi. C'est vraiment le poids qu'acquiert à partir des années 70 aux États-Unis et puis après en Angleterre, dans d'autres pays et tout. Hein. Et ça commence, en plus, ça commence là pour le coup plutôt dans la SF avec notamment la série Star Trek hein, où il y a un très gros fandom très très puissant, très mobilisé qui se constitue dès la fin de la série. Donc la série elle s'achève en 69 si je me souviens bien. Et donc très rapidement il y a un fandom vraiment très organisé qui se constitue. Et tu vas avoir ce type de truc qui va aussi se constituer dans la fantasy aussi. Alors, par exemple, il va y avoir la publication des calendriers Tolkien, des choses comme ça. Donc, tu vas voir voilà, des rassemblements autour de Tolkien et tout. Puis, en liaison avec les jeux de rôle, avec aussi la SCA, donc les gens, tu sais, la Society for Creative Anachronism, donc les gens qui vont s'habiller en fait, en pseudo-médiéval et tout, quoi. Donc, et c'est pareil dans les comics. Tu vas avoir un poids dans les comics de plus en plus important du fandom parce qu'en plus, se constituent à côté les librairies spécialisées hein, qui n'existaient pas dans les années 60 et qui deviennent de plus en plus important dans les années 70. Donc ça va créer un fandom qui va correspondre, ils vont correspondre, ils vont même écrire de plus en plus massivement, notamment aux éditeurs de comics, et ils vont parfois imposer des personnages aux éditeurs de comics. Alors là, il y a un cas intéressant parce que on est en plein dedans. Le cas, là, donc il y a la série The Falcon and the Winter Soldier, hein, donc de Marvel. Il y a un personnage qui s'appelle, qui reprend le costume de Captain America, en fait, avec un Captain America bis. Et en fait, ce personnage-là est créé dans les années 80 parce qu'il y a une partie des fans de Marvel qui sont influencés par la rhétorique des années Reagan et qui disent, voilà, il faut un Captain America un peu plus guerrier, un peu plus militariste, en fin de compte, un peu plus conservateur et tout. Et un des auteurs, donc Mark Gruenwald, en fait, s'exécute et crée un Captain America bis, en fait, voilà. Donc,
Oui, et si on remonte un peu plus loin, ce qui est assez curieux, c'est que Captain America, qui est créé comme une sorte d'allégorisation dans le contexte de la guerre et qui inaugure d'ailleurs une série de super-héros allégorisants, mais ensuite, bizarrement, dans les années de la contre-culture, Captain America va devenir un des héros, plutôt par le décalage temporel qu'il subit et tout ça, il va devenir plutôt, sinon contestataire, du moins pas du tout l'emblème allégorique d'une Amérique absolument sûre d'elle-même,
Bah,
triomphante.
c'est même au point d'ailleurs que le surnom d'un des héros d'Easy Rider, c'est Captain America.
Oui,
Voilà.
exact, tout à fait.
Voilà,
Oui.
voilà, ça c'est des exemples comme ça. En fait, voilà, je pense qu'on pourra en citer un paquet, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en effet, je pense que un des trucs qui est très intéressant, c'est justement ce poids en fait hein, des fans qui est renforcé encore plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, qui est renforcé par un nombre important de conventions et tout, notamment. Enfin voilà, il y a un vrai vrai poids des fans et il y a une espèce de rapport en fait collectif, dialectique parfois avec des créations qui en fait à qui ça appartient, on ne sait plus trop en fin de compte. Hein, parce que juridiquement, par exemple, le Captain America, il appartient à Marvel en fait, hein, mais sauf qu'en fait, c'est l'auteur qui écrit Captain America, il a le poids en fait de l'éditeur, mais il y a aussi le poids des fans. Et ben voilà, il y a tout un truc en fait qui est à mon avis extrêmement intéressant et qui est très intéressant à étudier, qui peut être intéressant à étudier d'un point de vue littéraire, d'un point de vue d'historien ou d'historienne, d'un point de vue aussi sociologique. Voilà, ça peut être voilà, c'est des questions en fait qui appellent plein d'analyses.
Oui, et qui sont magnifiés par les réseaux sociaux. Justement, c'est un des aspects importants du livre de Anne, c'est cette question. Et je pense que c'est un peu sur ça que tu voulais commencer aujourd'hui, Anne, non, la question du cosplay militant, le militantisme à travers donc la réappropriation des fans, par les fans de ces figures, tropes, etc.
Oui, c'est un aspect qui m'avait semblé intéressant de rediscuter. C'est pas de lien direct avec les réseaux sociaux, puisqu'au contraire, hein, c'est des incarnations très concrètes dont il va s'agir ici. C'était un des points de départ de ma réflexion pour ce livre, c'était d'avoir vu tous ces gens avec des pancartes, Game of Thrones, ou je sais pas, ou Sauron, ou Voldemort est parmi nous pour dénoncer les mauvaises pratiques de tel ou tel homme politique en faisant un rapprochement voilà, avec des figures du mal ou des empires du mal. Voilà, c'est quelque chose qu'on voyait tous beaucoup progresser comme type de rhétorique politique. Et puis, encore plus proche des corps des militants ou des militantes, on a pu aussi voir se multiplier donc vraiment des pratiques de type cosplay. Ce n'est pas exactement du cosplay parce que c'est quelque chose de beaucoup moins individualisé, de beaucoup moins sophistiqué que ne l'est le cosplay qui, normalement, donc costume playing, on se fabrique un costume à l'image d'un personnage de fiction qu'on aime, très souvent un personnage de comics ou de manga ou d'animé. Et on va porter ce costume dans un contexte normalement de spectacle et de loisirs plutôt fermé, donc typiquement dans des conventions et même dans des moments particuliers de conventions ou de festivals qui vont être dédiés à des défilés où le meilleur costume va être récompensé. Hein. C'est typique le type d'utilisation qui peut en être fait. Or, peut avoir repéré un équivalent de cela dans donc des types de manifestations récentes qui se veulent spectaculaires, hein, histoire d'attirer l'attention des médias, et qui ont, par exemple, regroupé des servantes écarlates. Hein, c'est le premier exemple qui peut venir à l'esprit, c'est celui qui est sur la couverture du livre. Donc, c'est des militantes pour le droit à l'avortement, hein, ou plus généralement pour le droit des femmes à disposer de leur corps, qui, un peu partout dans le monde, parce que ça, il y en a eu beaucoup aux États-Unis suite aux attaques de Trump sur ce type de droit, mais il y en a eu énormément aussi en Argentine, en Pologne, enfin voilà, partout où ces droits ont été menacés. qui donc sont apparus avec la grande robe rouge, la cornette qui limite le champ de vision, voilà, reprenant l'imaginaire visuel très fort de ces séries. Alors ça m'a fait, je pense que ça doit être remis un petit peu en contexte, même si c'est un contexte assez court pour le coup, hein. Peut-être que William aura des choses à ajouter pour la mise en profondeur, hein. Bon, on sait que le cosplay apparaît dans les années 50-60, voilà, en même temps que les conventions, hein, avec premier grand fan de SF, puis voilà, des femmes déguisées en guerrières fantasy qui apparaissent, voilà, dans ces premières expressions du cosplay. En revanche, en contexte politique, ça semble plus récent. Je vais renvoyer beaucoup à l'ouvrage, enfin dans mon bouquin, je renvoie régulièrement à l'ouvrage de Stephen Duncombe, hein, qui est un chercheur américain qui travaille sur les sous-cultures, les contre-cultures et la culture populaire, qui est vraiment intéressant, qui par ailleurs a travaillé sur les fanzines, etc. Enfin, qui est à l'interface très directement entre les contre-cultures, culture populaire et politique. Et donc, il y a un ouvrage de 2007 qui s'appelle Dream, Reinventing Left Politics in an Age of Fantasy, où il milite justement pour ce qu'il appelle des spectacles éthiques. Ethical Spectacle, qui aurait pour but que la gauche, hein, progressiste, se réapproprie ce qui est une tendance à la fictionnalisation du politique, qui jusqu'alors était plutôt l'apanage de la droite, hein, et de sa réinvention de la réalité. À ce moment-là, l'exemple pour lui, c'est Karl Rove, qui est le conseiller en communication de George Bush, et qui a réécrit l'histoire de la guerre du Golfe, hein, en se targuant vraiment explicitement d'inventer une réalité alternative contre laquelle les militants de gauche ne feraient jamais que courir, parce que eux se préoccupent des faits, eux se préoccupent de la réalité, ils se préoccupent pas assez de savoir que les gens, eux, tout ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur raconte des histoires et que ces histoires, voilà, communiquent avec leurs désirs. Et Duncombe dit, on a beaucoup hurlé contre Karl Rove, mais il a pas tort. Il faut que nous, on se mette, voilà, à utiliser aussi ces outils, alors, au service de nos valeurs. Et donc, il revient sur ce qui peut être l'histoire d'ACT UP, hein, par exemple, qui a commencé, hein, à intégrer un aspect très, très spectaculaire à ses actions militantes. Et puis, ces exemples à lui, donc, qui sont du début des années 2000, c'est les Billionaires for Bush. Hein, donc, on a eu l'équivalent en France avec les manifs de droite. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, des gens qui se baladaient avec des faux slogans pour l'évasion fiscale et la préservation des privilèges sociaux du 16e arrondissement. Donc, c'était l'équivalent aux États-Unis. Et puis, surtout, lui, il participait directement aux actions de Reclaim the Streets, un collectif militant protéiforme qui réutilisait les méthodes du théâtre de rue en arrêtant la circulation dans un certain nombre de rues et en se réappropriant l'espace public dans des manifestations festives pour, voilà, rendre au peuple l'espace public. C'était ça l'idée. Ce qu'on a vu depuis apparaître, c'est l'exploitation directe de fictions précises. C'est-à-dire pas seulement un appel à une certaine voilà, festivité et rôle de l'illusion et du rêve, mais plus directement des références à des imaginaires, alors qui peuvent prendre, il me semble, deux grandes formes. J'ai vraiment pas trop creusé. Ce qui m'a semblé, c'est qu'il y avait des rôles féminins qui étaient endossés, donc de manière assez, donc pas les mêmes, hein, qu'en contexte de spectacle, pour des questions pratiques évidentes, mais qui révèlent aussi le passage de l'identité individuelle à l'identité collective, hein, des rôles féminins pluriels qui nous font passer de l'intime à l'interchangeable. Et donc j'ai parlé des fémènes qui sont comme une espèce de mise en scène des fémènes, non, des servantes écarlates qui justement sont des anti-fémènes, c'est ça mon point, qui, voilà, à l'inverse de l'exhibition, sont dans la mise en scène de l'aliénation. Mais on a beaucoup vu en France aussi, il y a tout un collectif en France qui utilise le costume de Rosie la rifteuse. Vous voyez tout ce personnage, voilà, semi-légendaire, folklorique, avec, voilà, la femme qui serre le poing, qui fait sortir son biceps en bleu de travail pour défendre la capacité des femmes pendant la guerre à reprendre le travail ouvrier. et avec son petit fichu rouge sur la tête. Bon, alors ça, des Rosie la rifteuse, il y en a beaucoup dans les flash mobs françaises. En fait, c'est un groupe de féministes hein, qui va apporter des chorégraphies, des chansons et des costumes dans tel ou tel type de manifestation. Ça peut être contre la LPR à l'université ou pour le climat ou contre nos nouvelles lois policières. Et donc, elles apportent des grands sacs hein, et chacun. Évidemment, plutôt des femmes qui vont prendre ces rôles-là, mais ce n'est pas du tout obligatoire, va pouvoir mettre hein, un bleu de travail et un fichu rouge et entrer dans la danse, entrer dans le jeu. Et voilà, quand on a fini, quand on doit repartir, quand on est fatigué, on enlève le costume et on le passe à la suivante hein, avec vraiment un relais très, très direct. Parce que comme c'est très joyeux, et que voilà, ça change vraiment de la manifestation où on marche pendant des heures, et ben, y a toujours des gens qui sont vraiment prêts à prendre ce costume-là, à prendre ce relais-là. Les chorégraphies, ça prend 2 minutes, les chansons aussi. Donc voilà, c'est très efficace. Donc, et à côté de ces collectifs féminins qui sont clairement, en particulier les rifteuses du côté de l'empouvoirment, l'autre face très différente, hein, c'est des masques ricanants. Donc, on a des jokers hein, récemment, mais on avait avant pas mal de Guy Fawkes hein, qui viennent de V pour Vendetta et qui sont passés par les Anonymous. On a aussi un certain nombre de Casa de Papel hein, qui peuvent passer, qui ont pu passer en contrebande entre les deux, profitant du message bon, un peu subliminal, mais anticapitaliste de la série espagnole, enfin anti-finance de la série espagnole, et qui là, bah, du coup, est plutôt une face un peu plus inquiétante de ce phénomène. Alors, beaucoup plus individualisé, parce qu'on ne va pas avoir des collectifs de jokers. C'est des jokers individuels qui vont se glisser dans la manif, en général à côté de gars cagoulés et habillés en noir. Hein. Donc, c'est pas du tout le même, c'est pas le même type d'esprit. C'est de la contestation crue, ricanante et brutale. Une espèce de carnaval, mais avec la violence sociale sous-jacente, hein, et avec une volonté de destruction beaucoup plus nette, hein, et qui apporte une inquiétude et même un effroi un peu gore, hein, parce que les clowns maléfiques sont passés par là, tous les serial killers masqués des slasher movies aussi se rappellent à notre mémoire visuelle hein, quand on les croise. Et donc leur but, il n'est pas ici d'attirer les caméras avec des chants motivants, hein, mais au contraire de faire passer un frisson sur l'échine du système. Donc voilà, il y a ces deux volets, il me semble, à cet usage militant de forme de cosplay, un usage ludique et puis une forme d'inquiétude hein, dans l'exhibition crue de la violence sociale ou dans une forme même d'inquiétude d'un futur déjà là. Donc là, j'extrapole encore, hein, mais c'est ce qu'on a vu beaucoup avec les frontliners hongkongais qui ont non seulement utilisé beaucoup en réseau leur pseudo de jeu, qui se sont beaucoup appuyés sur des stratégies de combat collectif qu'ils avaient appris dans des jeux vidéo et qu'ils mettaient en place face à l'armée chinoise. Hein, qui va être le pusher, qui va être celui qui vient sur les flancs, qui va être le guérisseur à l'arrière-plan. Enfin, ils étaient vraiment explicitement inspirés par des pratiques de jeu et ils ont créé un jeu qui s'appelle Rébellion Hong Kong ou Libération Hong Kong, qui servait de didacticiel au suivant, hein, qui avait pour but de reproduire dans un jeu vidéo ce que c'est que d'être dans une manif, dans ces manifs-là, et de produire de la stratégie militante pour les suivants, hein, pour se passer comme ça le flambeau vraiment directement dans le virtuel qui leur a énormément servi. Et quand on voit voilà, les CRS carapassonnés qui ressemblent de plus en plus à des mécas, et voilà, on n'est pas le glissement entre le virtuel du jeu et le réel de la violence policière produit ces effets d'inquiétude hein, sur lesquels je voulais finir.
Oui, et parallèlement, le cosplay n'est pas seulement du côté de la contestation de gauche. On a vu l'assaut au Capitole avec ce chaman très étrange, donc qui est plutôt du côté de la réappropriation culturelle, mais dans la volonté de super-héroïsation, hein, quelque part, l'idée du costume, le justicier masqué, tout ça, cette tradition. Et par ailleurs, les néo-nazis...
Oui, en fait, c'est un néo-païen. C'est un costume néo-païen. Et alors, ça, c'est très compliqué parce que c'est vraiment aux frontières de l'extrême-gauche et de l'extrême-droite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir en trouver des deux bords. Il avait un tatouage de Atreyu, c'est ça ?
Ouais, avec un marteau de Thor, ouais. Enfin, ouais.
Donc, il renvoyait à des formes de néo-paganisme scandinave, hein, néo-viking, bon, qui, eux, font... effectivement essentiellement l'objet de réappropriation d'extrême droite, mais qui sont très contestés par de l'intérieur, par voilà, les gens qui sont intéressés par cette culture ou cette spiritualité, qui rien n'impose d'aller dans ce sens-là. Bon, c'est ces formes-là qui sont visibles.
Ouais, par contre, sur le pont pendant l'attaque du Capitole, donc, ce qui est intéressant, c'est que tu as eu plusieurs cas, notamment des photos assez célèbres, ou par exemple le type avec les serflex hein, qui saute dans la salle du Sénat et tout,
ouais, hein,
qui enjambe. Voilà, en fait, non, il a le symbole, il a le symbole du Punisher hein, qui est un.
Oui, mais il y avait Batman aussi qui était dans
Et il y avait plusieurs types comme ça qui avaient des symboles du Punisher, qui est en fait un super-héros qui est très. Qui est particulièrement revendiqué, qui est donc le symbole de la tête de mort hein, qui est revendiqué par des gens d'extrême droite, mais aussi par des gens, par des policiers, même y compris en France, hein, on a des cas aussi. Je crois qu'il y en a même eu un au Québec, si je me souviens bien, de cas de policiers qui s'affichaient avec plus au Québec ou dans le Canada anglophone. Hein, mais on est dans un usage en fait qui a fait à la fois un usage identitaire.
Toronto, c'était au Toronto, je viens de.
Toronto, voilà. Bon, alors, c'était pas au Québec, voilà. Donc voilà, donc le Québec est sauf. On est à la fois dans l'usage identitaire et puis voilà, en effet, dans une espèce de, on se regroupe autour d'un personnage ou d'une figure symbole et tout comme ça, quoi, qui permet de créer aussi un effet de communauté aussi. C'est intéressant, c'est qu'en fait, la communauté s'appuie en fait sur un espèce d'imaginaire, de monde imaginaire commun, en fait. Hein, donc, et ça c'est pour le coup, c'est extrêmement intéressant et dans lequel on va se reconnaître, en fait. Hein, donc,
et ça, voilà, c'est assez contemporain. Donc, c'est pour repartir du tout début de ce que tu disais, Antonio. Alors, peut-être pas, mais disons que peut-être pas uniquement, parce que autant la politique n'a jamais été absente des expressions culturelles, ça me semble évident, autant l'inverse, c'est-à-dire que le politique... le politique ou la politique d'ailleurs soit à ce point envahi par des images directement issues de fiction identifiable, ça me semble plus récent, plus marqué et sans doute lié au fait que la définition de soi en tant qu'individu en contexte connecté et en contexte d'individualisme galopant est de plus en plus précise, de plus en plus sophistiquée et passe de plus en plus par la revendication de goût culturel en surface, parce qu'en profondeur, évidemment, ça masque des systèmes de classe sociale ou de profession ou de lieu d'habitation, etc. Ça continue à être très actif, mais ce qu'on affiche, c'est plus comment on se définit vis-à-vis d'un certain nombre de goûts qu'on va associer. Voilà, c'est quelque chose qui peut aller dans le sens de cette nouvelle visibilité.
Juste, si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Anne, je pense que c'est là où c'est intéressant, et là où tu as entièrement raison, c'est que, à mon avis, et encore là, c'est des trucs, il faudrait avoir des, par exemple, des politologues qui s'intéressent à ça de manière peut-être plus approfondie. Alors, je ne sais pas s'il y en a sans doute, hein, mais disons qu'à mon avis, si on prend l'exemple de la France, hein, donc, celui que je connais mieux, mais ça peut marcher aussi aux États-Unis, mais bon, là, mais en fait, on va dire, les lieux de sociabilité, il y a 50 ans, c'était la plupart de ces lieux de sociabilité où on pouvait parler politique en plus, ils ont quasiment disparu. Hein. Le syndicat, le parti, voilà, donc c'est. Et voilà, pour des raisons.
Le café.
Le café aussi, par exemple, voilà, donc. Et tout ça, c'est des lieux qui ont disparu. Et donc, quelque part, ce qui induit aussi, et ça, c'est, à mon avis, ça induit un manque de connexion avec le politique hein, et l'absence de débouchés politiques, en fait. Et ça, en fait, là où c'est intéressant, c'est que, à mon avis, la culture populaire va servir en fait de moyen hein, par une espèce de biais, par une espèce de bande en fait, hein, par un détour, va servir comme un moyen de réinvestir du politique en fait, de reparler de politique, mais parce qu'on peut plus en parler directement, on n'a plus accès parce qu'avant quand il y avait un système de parti ou de syndicat qui marchait, il y avait des courroies de transmission et tout, qui valaient ce qu'elles valaient et tout. Mais là, ça n'existe quasiment plus. Et donc, voilà, on passe par maintenant par des formes carnavalesques de protestations dans la rue, d'expression directe, et on repolitise des endroits qui, a priori, n'étaient pas politisés. Enfin, il faudrait avoir des études très précises sur le fandom et tout, des choses comme ça. Mais par exemple, le fandom de Star Trek s'est créé aussi parce que c'était un fandom vraiment à la fin, en 69, c'était un fandom très, très proche du Parti démocrate, en fait, en tout cas très contre-culture, très jeune et tout, et qu'en fait, on est en pleine année Nixon, on est en plein verrouillage, en fait, hein, de la contre-culture par l'administration Nixon et tout. Et donc, c'est parler de Star Trek, c'est un moyen, en fait, de parler, de critiquer le pouvoir en place aussi. Donc, voilà, donc ça, ça veut dire qu'en fait, il y a à la fois un blocage et donc la culture, en fait, ou la culture pop, les mondes imaginaires, en permettant un pas de côté, servent en fait quelque part d'expression politique bis, quoi, en fait, hein, d'expression d'alternative, en fait.
Oui, le côté plus pessimiste, on a déjà eu cette discussion un peu avec Anne. Dans les mêmes années, évidemment, Guy Debord dénonçait la société du spectacle. Et est-ce que, bah, dans une perspective situationniste, etc., est-ce que ce n'est pas juste le triomphe absolu
Je n'invente pas, j'ai écrit situationniste sur mes notes, là, tu vois, pendant qu'on en parle, quelque chose,
Non,
voilà.
mais c'est un peu inévitable, c'est-à-dire
Non,
que.
mais bien sûr, c'est. Mais sauf qu'en fait, là où c'est marrant, c'est que Debord, en fait, il avait beau dire ça, mais les situationnistes ont été parmi les premiers à utiliser la culture pop.
La bande dessinée, le
Ah oui!
détournement, oui.
Donc, bien sûr, c'était parmi les premiers. Moi, je en prends un cas. Alors, je ne sais pas si c'est les situs en tant que tel, mais ça sent l'influence situ. Il y avait une BD pirate pendant les luttes antinucléaires en France et en Allemagne dans les années 70 qui s'appelle Astérix contre les bombes.
Oui, je l'ai
Voilà.
depuis ces années-là, d'ailleurs.
Mais
Je parle dans les boîtes.
c'est du pur situ, ça, en fait. Donc, voilà. Donc, après, il va y avoir, en effet, du côté des situs, une forme de critique. Mais parce que s'il y a une critique, en fait, de la part des situs, c'est parce qu'ils se rendent bien compte que c'est un terrain
De lutte,
d'enjeu crucial, un terrain de lutte crucial. Tout comme, en fait, et les situs, en fait, ils relisent qui? Ils relisent Gramsci, et puis Gramsci, c'est pareil, voilà, donc il disait ça déjà. Et puis, par exemple, quand on a Iglesias, en fait, hein, donc, Pablo Iglesias, donc le leader de Podemos, hein, comment on prend comme exemple Game of Thrones, qui écrit même, qui dirige même un bouquin collectif sur Game of Thrones, en fait, hein, donc, qui est sorti en 2014, il fait ça parce que, un, il a pleinement conscience que, eh ben, en faisant ça, il va toucher un public jeune, et il veut absolument toucher un public jeune, donc il va parler le langage, en fait, il va parler un langage du public jeune, comme par exemple, les gens d'Hong Kong, en fait, ils vont s'échanger, en fait, avec des histoires de jeux vidéo, ils vont parler, en fait, en code issu des jeux vidéo. Et aussi parce qu'il a pleinement conscience, c'est parce que c'est un lecteur de Gramsci, et d'ailleurs, quand on lit son bouquin, il n'arrête pas de parler de Gramsci, et ben, en fait, il a pleinement conscience que le champ culturel est un champ de bataille politique.
Oui,
Et donc,
d'ailleurs,
voilà.
il offre l'intégrale Game of Thrones au roi d'Espagne quand il devient roi, donc le nouveau roi d'Espagne. Et oui, c'était une stratégie tout à fait affichée.
Oui, il a
Oui,
voulu troller le roi
puis.
d'Espagne. Ouais,
Oui, non, c'est ça. Puis c'est un peu. Bah, il y a un côté. Bah, c'est aussi une sorte d'offensive républicaine. Et il y a un côté meurtre symbolique par œuvre interposée, puisque c'est un peu le côté machiavélique. Quand tu offres Game of Thrones à un roi, il y a un
Oui.
côté un peu gare à ta tête. Quelque
Ouais,
part, c'est
tout à
assez.
fait. En plus, et Machiavel, qui est aussi
Oui.
une des grosses références du bouquin qu'il a co-dirigé. Enfin, qu'il a dirigé sur Game of Thrones aussi. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a en effet une grande nouveauté, mais en fait, c'est des réflexions qui, dans les milieux progressistes, des milieux de gauche, sont pas si nouveaux. Et en fait, quand on parle, enfin voilà, après, ils se posent pas avec la même acuité et sur le même mode qu'aujourd'hui. Qu'en fait, voilà, donc quelqu'un quand Marx commence à critiquer Genzu, on est au début, en fait, hein, de la création de la culture de masse, de la presse de masse et tout. Voilà, donc c'est en train d'arriver, quoi. Donc il assiste au début, quoi. Donc, mais voilà, aujourd'hui, il y a une telle densité de création. Il y a une telle influence de ces créations-là qu'en fait, on peut pas, voilà, on est obligé de se plonger dedans, quoi. Donc, et ça va même plus loin, à mon avis, c'est qu'il y a une fiction arthurienne, hein, qui s'appelle Ready Player One, hein, et il y a une série donc, qui est adaptée au cinéma par Spielberg. Donc, ça, à la base, c'est un roman. Et il y a la suite qui est sortie là, en décembre dernier, Ready Player Two. Et en fait, ça parle d'un monde qui est apocalyptique dans lequel les gens vont, quelque part, jouer à un jeu, une espèce d'immense MMORPG, en fait, hein, et vont essayer de refaire une espèce de quête arthurienne pour protéger ce monde imaginaire contre les appétits d'une multinationale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette fiction-là, le jeu en tant que tel est une utopie, quoi. Et c'est, enfin voilà, et ça, c'est-à-dire que le monde imaginaire est une utopie en tant que tel, et c'est pas juste de l'escapisme, c'est pas un endroit où on va fuir, c'est aussi un endroit où on va se créer, en fait, une espèce d'identité, enfin d'imagerie utopique et tout. Donc, voilà. Et ça, je pense que c'est hyper important et je pense que c'est quelque chose qui est très, très important aujourd'hui. Et ça, après, c'est une estimation doigt mouillé, en fait. Hein. Ça, c'est, je dis ça dans le, comment, dans le feu de la discussion, mais à mon avis, les ailleurs sont de moins en moins nombreux, en fait, aujourd'hui, quoi. En fait, les ailleurs physiques, au 19e siècle, on pouvait dire, bah, il y a un autre monde, c'est l'Amérique, c'est l'Australie, voilà, on peut dire, on ne peut pas partir ailleurs pour créer un nouveau monde, quoi. Début 19e siècle, on disait, bah, c'est l'espace, en fait, le nouveau monde. Bon, aujourd'hui, on sait que tout ça, c'est... Bon, déjà, il n'y a plus d'ailleurs géographique, voilà, ça n'existe quasiment plus. Hein, et puis, les mondes spatiaux, bah, voilà, quoi, donc, on y repassera, quoi, à part envoyer une voiture de sport dans l'espace. Voilà, donc, et donc, ces projections utopisantes hein, qui étaient projetées sur l'Amérique, sur, voilà, sur des nouveaux mondes ou sur des, l'espace et tout, et ben, ces projections utopiques, maintenant, elles sont projetées dans des mondes imaginaires. En fait, voilà.
Mais donc, c'est intéressant qu'on parlait avec Laure Guillot justement sur une de ces hypothèses qui est très intéressante, c'est que la fantasy moderne et la science-fiction moderne dérive du monde fini. C'est-à-dire qu'après la grande expansion du roman d'aventure, qui avait toute cette projection spatiale, coloniale, etc., donc les ailleurs, l'Afrique, l'Antarctique, etc., etc., ben, il arrive ce moment, donc, dans cette belle phrase de Paul Valéry, voici le temps du monde fini, où tout est cartographié, il n'y a plus de points blancs sur la carte, et c'est à partir vraiment de ce moment-là, j'ai aussi un peu travaillé sur la question du coup, par rapport au space opera, etc., que, par exemple, Edgar Rice Burroughs invente le space opera un peu, à partir justement du cow-boy qui est en train, c'est un soldat confédéré qui fuit, qui se réfugie dans une cave et qui a une projection astrale sur Mars. Donc en fait, on passe de la frontière finie, donc il n'y a plus le Far West, on est arrivé au bout et il n'y a pas l'Amérique qui trouve l'Éden et tout ça. Et du coup, on part sur Mars. Et donc, et pour la fantasy, c'est un peu le tournant où on passe des mondes perdus à Conan, etc., etc., où on n'est plus dans des personnages victorien qui découvre un monde perdu, mais on est dans le monde perdu. Et là, c'est la fantaisie.
Je casse suffisamment les pieds à Anne là-dessus, hein, quand j'arrête pas de comparer la fantaisie à du western et tout, voilà, donc j'arrête pas d'en parler, mais c'est vrai qu'il y a quand même d'énormes parallèles qu'on pourrait faire, en fait, hein, voilà, donc même au niveau du cinéma actuel de fantasy qui reprend beaucoup de codes du western et tout. Et ça marche aussi pour les super-héros, cette histoire-là. C'est qu'en fait, il y a des. Voilà, on est. Là, quand on prend par exemple des films comme Logan, c'est un pur western. Mais c'est un western. En plus, après, Logan, on pourra en parler pendant des heures, hein, parce que c'est un film très complexe en plus, hein, mais c'est un western qui, d'ailleurs, comme des westerns d'Eastwood, en fait, hein, annonce la fin du genre et puis en même temps le renouvelle. Quoi. Donc voilà, donc il y a tout un truc. Voilà, en plus, c'est très américain, c'est très lié à la notion de frontière américaine. Donc voilà. Voilà. Mais c'est en effet, cette histoire de monde fini, en effet, là, je pense que c'est central, en fait, hein, par rapport justement à cette espèce d'influence énorme qu'on maintenant. Ces mondes imaginaires, parce que c'est le seul endroit où on va pouvoir se projeter, en fait, voilà. C'est le seul endroit. Encore une fois, c'est pas possible de se projeter, d'autant plus que même maintenant, même si aujourd'hui on vous dit ah ben l'espace, il y a du nouveau, il va y avoir des gens sur la Lune, sauf que l'espace maintenant, c'est plus le temps des pionniers dans l'espace, c'est le temps des marchands. Voilà, on va sur la Lune pour faire du business, en fait, voilà. Donc
c'est une des émissions que je voulais faire, c'est le côté crépusculaire dans les derniers films sur l'espace.
Ah bah complètement.
Vous avez vu Half-Life, etc.
Bah bien sûr.
C'est la mort dans l'espace. Il y a eu plusieurs comme ça.
Bien sûr, c'est Gravity, c'est pareil. Ouais. Gravity, l'espace, c'est dangereux. Interstellar, c'est quasiment du post-apo. Enfin voilà, non, bien sûr, c'est pas du tout. On n'est plus du tout dans Star Trek. Voilà, on n'est plus du tout dans la frontière. Et même les derniers Star Trek sont tous hyper crépusculaires. Ce qui les rend d'ailleurs au passage un peu, moi perso, je les trouve un peu chiant, quoi. En fait, voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'est soit on fait du Star Trek, soit on fait du Mad Max, hein, mais pas l'un et l'autre. En fait, voilà. Donc, mais voilà, bon.
C'est très représentatif, oui, effectivement. Ouais. Moi, j'ai trouvé que la fin du rêve de l'espace dans toutes ces fictions, il y a ce truc qui est basé sur un opéra finnois qui est assez fascinant. Je ne sais plus le titre parce que c'est un nom, Anoya ou un truc comme ça, et où D'accord. c'est carrément une sorte de mort collective. C'est le dernier vaisseau, c'est le trope du vaisseau intergénérationnel. C'est le dernier survivant de l'humanité et peu à peu il crève et c'est ça le film. Donc vraiment on peut pas être plus absolument nihiliste, sauf que l'opéra lui est des années 50, donc plus sous l'emprise de la bombe atomique, la guerre froide, etc. Mais le film apparaît maintenant dans un cortège qui à mon avis fait série ou fait sens, C'est-à-dire que dans plusieurs films, et puis on a aussi le paradoxe assez curieux, c'est que c'est les sortes d'éboueurs de l'espace qui deviennent des héros. Donc il y a un manga animé aussi très intéressant là-dessus. Puis il y a le dernier film coréen qui a eu beaucoup de succès cette année sur Netflix, où c'est encore une fois des éboueurs de l'espace. Donc cette idée que l'espace est devenu aussi pourri que la planète et qu'on est entouré de poubelles interstellaires. Et que les nouveaux héros ne sont plus du tout dans des X-Wings, dans une sorte de nouvelle frontière, etc. Mais ils sont au milieu d'ordures qui doivent, donc dangereuses, puisqu'elles mettent en danger les tripulations, etc.
Et même là, encore une fois, c'est un de mes dadas, mais Star Wars, ce n'est pas de la science-fiction. Pour moi, c'est un genre qui renvoie. Alors après, pareil, on pourra en parler pendant des heures. Mais c'est du space opera, mais c'est aussi beaucoup de fantasy. Enfin, The Mandalorian, par exemple, hein, vous en avez discuté. C'est à la fois, ça mélange à la fois la fantasy, le western, les films de samouraï. Donc, on est vraiment dans une imagerie très passéiste, en fait, qui renvoie à de l'imagerie très passéiste, en fait, voilà, très médiévalisante et tout. Donc, voilà, ou une imagerie très, même parfois même un peu steampunk et tout. Donc, on n'est plus dans le futur, c'est voilà, le futur. Puis en plus, Star Wars, ça se déroule, c'est marqué dès le début, c'était il y a très longtemps, quoi, en fait. Voilà, donc, bon, bah voilà, donc comme ça, c'est réglé, quoi. Donc,
ouais. Non, tout à fait. Et Denis, non, la question de l'horreur, puisque c'est un peu ce qui nous avait intéressé à partir de Lovecraft Country, mais du côté plus fantastique, horreur, qu'est-ce que tu remarquerais?
La question du politique m'a intéressé, puisque l'intitulé de l'émission, c'est « Politique de l'imaginaire hein. ». Sur un autre versant des fictions de l'imaginaire, qui sont le fantastique, dans lequel la question du politique ne s'est pas du tout posée de cette façon-là en termes d'histoire de la réception, et notamment en termes critiques, puisqu'il y a au contraire une impossibilité théorique pointée très tôt du discours politique dans le champ fantastique. Et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que la critique du fantastique le nomme très très tôt, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il est difficile de défendre à la fois une littérature de la suspension du sens, d'une part, et d'autre part, une littérature qui présenterait des allégories ou des contenus qui seraient transposables sur le plan politique. Ça, Todorov le dit, mais alors de manière limpide. Alors bien entendu, tout le monde a tout de suite démontrer le contraire, pour une simple et bonne raison, c'est que je crois que la discussion n'a pas vraiment lieu d'être. Qu'est-ce qui échapperait aux politiques ? En comment un discours qui se situe dans l'espace et dans le temps, à des moments donnés, pourrait, d'une manière ou d'une autre, ne pas être politique, à quelque degré que ce soit. Donc c'est assez facile de relire le hors-là en précisant le contexte politique, c'est assez facile de relire n'importe quelle fiction du XXe siècle pour y trouver des incarnations du progressisme ou au contraire de la réaction. Donc je crois que la question, elle est comment construire la question du politique dans un genre comme celui du... Pour moi, le fantastique n'est pas un genre, mais plutôt une modalité de l'écriture, une modalité de la fiction. Mais comment construire le politique dans des récits qui ne le thématisent pas, mais qui, justement, l'interrogent, hein, parce qu'il l'interroge sur la question de la production d'un discours. Et d'ailleurs, le dysfonctionnement du texte peut être lui-même un effet de sens de type politique. Hein. On sait très bien à quel point le XXe siècle aura utilisé le fantastique dans des perspectives politiques. Je pense à Bulgakov, par exemple, on peut même citer, bien sûr, des contemporains sud-américains ou des romanciers des pays de l'Est pour lesquels le fantastique aura été une stratégie politique extrêmement puissante. Bon. Alors, donc, la question de trouver du politique dans le fantastique, oui, ça se fait très facilement. Mais en même temps, force est de constater qu'il y a eu une réticence et de sa critique et de ses lecteurs, parce que là, et c'est là où je vais rejoindre finalement des points qui ont été soulevés par Rad et par William, il y a dans le roman populaire, effectivement, tout à fait d'accord avec ces éléments-là, mais comme William, sans forcément penser à une revanche contre tous ceux qui nous disaient « oui, bon, tout ça n'est pas très sérieux », moi je suis parti de remarques comme celle, par exemple, d'Amichel Picard sur le roman populaire, l'envisageant dans la littérature comme, je cite, « la machine à décerveler ». C'est-à-dire qu'il faut partir un petit peu de l'idée inverse, c'est-à-dire que le roman populaire, nous aujourd'hui, quand on voit les manifestations dont Anne parlait, on reconnaît dans les icônes de la fiction populaire mondialisée un support à un discours progressiste éventuel. Mais il n'en demeure pas moins que toute une tradition post-Francfort aura démontré, que ce soit dans la suite de l'industrie culturelle, que ce soit, je ne sais pas moi, chez Gunther Anders, que ce soit chez beaucoup de penseurs, que vous pouvez bien nous sortir tout ce que vous voulez en nous expliquant à quel point un super-héros peut avoir une bivalence idéologique, il n'en demeure pas moins que c'est un produit de l'industrie culturelle et qu'à ce titre-là, il est idéologiquement manipulateur et certainement pas émancipateur. Moi, je montre toujours à mes étudiants ce moment extraordinaire où un journaliste allemand montre à Adorno John Baez en train de chanter une chanson contre la guerre du Vietnam et Adorno qui dit « oui, elle a juste réussi à transformer la protestation en produit de marketing ». Vieil Adorno têtu et râlant qui n'achète pas ce passage à la pop culture et qui reste toujours aussi grognon et intraitable sur l'industrie culturelle. Donc, ce que je trouve fascinant dans cette question-là, ce n'est pas tellement de résoudre le débat, puisqu'en fait, c'est un débat idéologique. Il y a ceux qui, parmi nous, sont très bien dans l'univers mondialisé du néolibéralisme et ils vont rouler côté Jenkins. C'est-à-dire globalement parier sur l'intelligence collective, sur la démocratisation possible des réseaux sociaux, sur le partage des fictions, dans un grand geste œcuménique qui permettrait d'investir toutes ces dimensions-là d'une dimension progressiste. Et puis il y a ceux qui, de l'autre côté, à droite comme à gauche, vont voir au contraire, dans la multiplication des figures pop, les signes d'aliénation, à telle enseigne d'ailleurs que une thèse récente qui a été soutenue par Désiré Lorenz sur les comics montre bien qu'il y a des usages indépendants, il y a des usages subversifs, il y a des usages en micro-édition des figures du comics et qui sont précisément des figures minoritaires et qui essayent de retourner ces icônes dominantes. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ces icônes sont d'une réversibilité idéologique totale. Anne, tout à l'heure, parlait de la saisie dont les groupes qui sont des groupes de défense de l'avortement, de la possibilité du pro-choice, faisaient de la servante écarlate, il y a également des pro-life qui utilisent la même iconographie, le même imaginaire pour montrer à quel point ces univers qui seraient effectivement vers quoi va la société, eh bien vers un univers effectivement où les femmes seraient amenées à être utilisées comme des ventres de location. Donc bien entendu, la question de savoir ce que pense Atwood n'a aucune espèce d'importance. Ça, c'est une autre question. C'est la vieille question de l'intention de l'auteur, de son discours, etc. Ce sont des fictions dont la labilité est extraordinaire et on sait qu'il y a des Batman de droite comme des Batman de gauche. On sait qu'il y a des steampunk de droite comme des steampunk de gauche. Donc la question n'est pas une question de textualité, c'est à peine une question de franchise et de système commercial, c'est plutôt une question de plasticité de la réception. Et ça, c'est vrai par exemple de Tolkien. Il y a des lectures progressistes de Tolkien, il y a des lectures réactionnaires, il y a des lectures de la critique de la modernité au 19e, ce que tu disais sur Valérie, il y a ceux qui font de Jules Verne le chantre du positivisme, et puis il y a d'autres lecteurs qui montrent bien comment le fantastique vient inquiéter le positivisme à l'intérieur même de la fiction vernienne. Ce que tu disais sur l'univers fini, moi je peux te faire des lectures à la suite de Jean Delabroix, des lectures de Verne qui montrent comment il y a une veine fantastique qui vient inquiéter l'assurance positiviste du sein même de la fiction. Et voilà. Donc ce qui m'intéresse, si tu veux, c'est reconfigurer la question fantastique et de l'horreur dans un paysage où effectivement je partage l'avis d'Anne et de William, bien sûr que c'est politique parce que qu'est-ce qui ne l'est pas et qu'on en trouvera toujours des inscriptions et à ce moment-là effectivement montrer deuxième temps que la machine à décerveler est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a des auteurs qui participent effectivement à des gestes d'émancipation quand d'autres participent au contraire à des gestes d'aliénation ou en tout cas des gestes sur lesquels on peut commenter et on peut construire, et que ça, c'est un problème d'interprétation, c'est un problème de prise en charge des icônes de la fiction qu'on peut faire travailler dans un sens ou dans un autre. Alors, bien entendu, il y a des œuvres qui vont plutôt dans un sens ou plutôt dans un autre, mais cette plasticité qui est à conserver, qui fait que les exemples que Anne donnait sur le jeu vidéo ou les exemples que William donnait sur la mondialisation ne font que renforcer, et la transmédialité ne font que renforcer cette plasticité. Et puis, enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a pu voir... Oui, tout à l'heure, si William disait quelque chose qui était très intéressant, ce serait la réception des fandoms ou des critiques. Prenons un cas de figure très, très intéressant qui est l'épouvante ou l'horreur. Aux États-Unis, dans les années 60-70, tout ça est considéré comme vraiment de la machine à décerveler, jouant sur les pulsions épouvantables, quelque chose qui est absolument illégitime. Le problème, c'est que dès les années 70 en France, on lit ça de façon très sérieuse. Hein, c'est la vieille boutade de Carpenter disant « Moi, quand je suis aux États-Unis, je fais des séries B. Quand j'arrive à Paris, je suis un auteur. » C'est-à-dire le fait de prendre au sérieux. Et qu'est-ce qu'on prend au sérieux dans le cinéma de Carpenter et de Craven ? C'est la question politique. C'est-à-dire la façon dont l'horreur déconstruit l'American Way of Life, s'en prend au rituel communautaire, a une portée politique au sens où elle fait dysfonctionner les attentes de l'ordre parental, religieux, tout ce que tu veux. Donc, c'est d'abord sur une question politique que va être lu sérieusement ce type de fiction. Et on voit bien comment sur la question de l'horreur, et c'est toute la réception de l'horreur jusqu'à aujourd'hui, tu as une lecture réactionnaire qui voit le pire de ce que l'on peut faire en matière d'exposition de la pulsion et un appel à la violence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette discussion-là est en train, depuis une dizaine d'années, de changer, puisqu'il y a une lecture également politiquement correcte et aujourd'hui woke de la violence subversive que l'horreur était en train d'installer. Donc, tu vois, ça marche en plusieurs temps. Hein. Il y a une lecture, ce qui est aujourd'hui assez fascinant avec l'horreur, c'est qu'elle est attaquée des deux côtés. Elle est attaquée et par le progressisme et par les aspects les plus traditionnalistes et réactionnaires. Et puis, il y a ceux qui vont défendre, c'est les pauvres aujourd'hui, ils sont bien malheureux parce qu'ils sont obligés de le défendre sur le plan figural et esthétique, c'est-à-dire ce qui a le moins de puissance dans le champ académique contemporain. Et de dire, bah, finalement, non, le jeu de l'horreur, c'est de la représentation, c'est des univers fictionnels, ce sont des tropes cinématographiques, alors que de droite ou de gauche, ils sont pris dans des lectures de type morale. Bon, ben c'est très intéressant de voir effectivement que les enjeux autour de la culture pop aujourd'hui ont été moraux au sens moralisateur du terme, sont devenus politiques et de mon point de vue redeviennent moralisateurs aujourd'hui. Et je crois qu'en ce sens-là, les représentations politiques de l'imaginaire sont... Alors, je vais le dire sous la forme d'une boutade. Qui est les imaginaires politiques dans la SF, dans le fantasy, dans l'horreur, dans le fantastique, c'est une évidence. Hein, qu'il y ait des thématisations politiques à l'intérieur de ces espaces, parfait. Que les personnages puissent s'adapter à des imaginaires politiques, c'est possible. La véritable question, ce qui n'est pas la même, c'est celle de l'intitulé de l'émission, qui est politique de l'imaginaire, c'est-à-dire quelles sont les valeurs politiques que les littératures de l'imaginaire peuvent prendre. Pour le dire autrement, qui croit encore qu'un Marvel peut être porteur d'une quelconque dimension d'émancipation ? Et ça, on est en plein dans le débat qu'on a connu avec Black Panther. C'est-à-dire, voit-on dans Black Panther le signe d'une émancipation de la représentation des super-héros afro-américains, ou voit-on dans Black Panther la réduction de tout type de progressisme de la communauté afro-américaine aux conditions des dispositifs super-héroïques qui sont fondamentalement ceux d'une représentation de type hollywoodienne et centrée selon les valeurs de la communauté blanche. C'est exactement le même problème avec Wonder Woman, hein, c'est-à-dire est-ce que c'est une femme qui devient une super-héroïne ou est-ce que Wonder Woman est un homme comme les autres ? Et cette question-là, par exemple, je l'ai trouvée passionnante à étudier dans les années 80, enfin de la fin des années 70 aux années 90, avec les vagues successives des lectures féministes sur le cinéma d'épouvante. Les étapes successives, avec des gens comme Carol Clover, avec des gens qui viennent successivement. Première phase, le cinéma d'épouvante est un cinéma de la cruauté, hétérocentré, masculiniste, qui exerce des violences sur le corps féminin. Deuxième phase, Clover, attendez, c'est plus compliqué que ça. Il faut prendre en compte la question de la Final Girl. Et donc, retournement de la proposition, pas du tout. C'était le seul type de cinéma, à l'époque, dit Clover, on est au début des années 80, elle dit c'est le seul type de cinéma dans lequel la Final Girl permet d'offrir à un spectatorat principalement masculin une focalisation interne à travers un point de vue féminin. Il n'y en a pas d'autre, dit-elle. Et en ce sens-là, elle défend l'hypothèse de l'émancipation, de l'empowerment, etc. Et vague suivante, non, Clover est complaisante, et ainsi de suite. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas que l'une ou l'autre ait raison. Ce qui m'intéresse, c'est que l'horreur et la fantasy et tel ou tel objet sont devenus des champs de combat et d'interprétation idéologique extrêmement vitaux dans la culture populaire. Et là, je rejoins tout à fait les propositions d'Anne tout à l'heure, qui étaient celles de montrer cette vitalité extraordinaire qu'on a pu voir avec la Casa de Papel, avec Guy Fawkes, etc. C'était cette façon dont sont investies les figures. Alors, je suis d'accord avec elle, il y a des figures, certaines sont
plutôt traumatisantes, violentes et, disons, antilibérales. D'autres sont au contraire plus aptes à être poreuses et à être bivalentes, d'autres certainement plus à droite. Mais je trouve ça assez passionnant de voir cette politisation des imaginaires du fantastique, des littératures de l'imaginaire au sens large, ou des fictions d'imaginaire. Voilà un petit peu, si tu veux, la trajectoire qui est la mienne. Elle vient d'un corpus qui est fantastique, elle vient d'une pensée qui est très suspicieuse par les adhésions idéologiques qui sont les miennes et par les lectures critiques qui sont les miennes, qui est toujours, disons, plus assez suspicieuse vis-à-vis de ce type de fiction. Et en même temps, elle constate avec mes collègues, effectivement, elle constate tout à fait les points dont on a discuté tout à l'heure.
Oui, il y a aussi, au fil de ce que tu disais, dans cette généalogie des lectures, des interprétations, des différentes écoles du soupçon, puisque c'est toujours un peu dans l'herméneutique, il y a toujours cette idée un peu du soupçon quelque part. Mais ça rejoint d'une façon assez curieuse, on dirait qu'on est en train de rejouer les débats des années 80 du côté des cultural studies, puisque dans les cultural studies, il y a autour de la question de l'idéologie, de la culture populaire, des immenses débats. À ce moment-là, on évoquait tantôt, William évoquait tantôt donc, l'influence de Gramsci, donc le tournant gramscien des cultural studies de Birmingham, avec Stuart Hall et les autres, et où il commence à dire l'idéologie, c'est plus complexe que ce qu'on pensait, et ce n'est pas juste une question de le truc typique qu'on déteste dans les copies d'étudiants, faire passer le message, non ? Donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus une classe qui affirme tout simplement ses valeurs. Ce n'est pas non plus juste une machine univoque, unilatérale au sens adornien des cultures industries. C'est plutôt donc un combat pour l'hégémonie et avec des effets très complexes de réélaboration des uns et des autres, parfois des mêmes idéologèmes. Donc, un même idéologème peut, donc que ce soit la défense de la famille, la défense du pays, ça peut prendre des tournures. A priori, on peut associer ça inévitablement au discours conservateur, mais ça a pu être aussi, à des moments donnés, de l'histoire de la gauche au sens très large, ça a pu être des valeurs de gauche. Donc, l'idée que tout se joue autour de contradictions. Et là, il y a la lecture par les cultural studies de Pierre Macherey, que j'ai l'impression que, après sa grande époque, a été un peu oublié du côté français. Donc, le côté un peu French theory, que c'est plus les anglo-saxons qui tripent sur certains auteurs français, et la France ne va pas nécessairement avoir la même influence. Donc, là aussi, une question de réception et tout ça intéressante. Mais l'idée que, justement, ce qui serait intéressant du côté de l'idéologie, ce n'est pas du tout un côté d'affirmation d'un message, mais du jeu des contradictions. Et je pense que c'est... Et puis après, il y a, dans les cultural studies, le tournant de ce que McGinnan va dénoncer comme le populisme culturel. C'est-à-dire, c'est le moment où Fiske, devançant Jenkins, qui est un héritier direct de John Fiske et tout ça, commence à vanter le pouvoir politique de la réception des produits des industries culturelles pop, en disant, au fond, c'est ce que les gens font qui est populaire, et cette différence parfois avancée entre culture populaire et culture de masse, la culture populaire serait ce que les usagers font de la culture de masse, etc. Et c'est ce que McGinnan dénonce comme étant du populisme culturel, en disant, au fond, vous êtes juste en train de devenir des sortes d'extensions idéologiques secondes de l'idéologie première des industries culturelles, c'est-à-dire vous êtes tout simplement en train de seconder le marketing de ces produits-là, en disant qu'au fond, c'est super parce que les gens, ils voient Dallas et ils en font un contre-texte féministe, etc. À l'époque, évidemment, je cite les textes des années 80. Et donc, pour McGinnan, c'est vraiment la fin du projet critique des cultural studies, tel que annoncé par les pionniers Raymond Williams Hogarth, Thomson, etc. Et puis après, on repart. Donc, à nouveau, un peu cette idée de ce que tu disais, Denis, de que après on refait un tour donc, de manège et on revient avec Jenkins à l'idée de l'agencivité des fans. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, je caricature un peu Jenkins, mais c'est vrai qu'il y a eu un peu ce côté-là très optimiste. Les fans se réapproprient les œuvres, ils sont créatifs, ils sont super. Tout ça est très émancipateur et très cool. Et on oublie complètement donc, cette grande critique qui avait été portée vers cette idée du consommateur comme militant ou du consommateur roi, finalement, dans un sens curieusement émancipateur. Et on revient à ça. Et là, on est à nouveau, je pense, pris dans cette idée. Est-ce que c'est du populisme culturel, au fond, que de cautionner toutes ces pratiques et au fond un peu ce fantasme aussi, parce que j'ai l'impression qu'il y a un côté de fantasme de se dire que en consommant des séries, en consommant des comics, etc., on est en train de changer le monde. Et je pense que c'est assez curieux. Et c'est là où je dis, bon, d'un point de vue débordien, etc., ceci est totalement aberrant. C'est-à-dire que c'est la fin de la politique dans un sens, la fin de la lutte politique dans un sens. Oui, Anne ?
Oui, alors je pense qu'on est, on est bloqué dans une contradiction qui était pour moi très sensible dans le discours de Denis, qui est à la fois plasticité de la réception et aliénation pour tous. Vous voyez bien que c'est contradictoire en fait, qu'on ne peut pas à la fois affirmer que, enfin voilà, qu'on peut prendre la même œuvre dans tous les sens, qu'il peut y avoir des lectures comme ça, des lectures comme ci, ce qui va dans le sens d'un pouvoir de l'interprète, ou alors il y a un niveau herméneutique et un niveau économico-social qu'il faut impérativement bien distinguer. Et change-t-on le monde en regardant des séries ? Non, mais comment change-t-on le monde ? Enfin, voilà, moi, il y a le côté qui m'énerve chez Adorno, qui est, bon, on reste à grogner chacun dans notre coin. Enfin, tu vois, quand il critique John Baez, je veux dire, quand on revient sur la lutte contre la guerre du Vietnam, qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste les images des manifs. Et qu'est-ce qui peut inspirer aujourd'hui ? C'est ça. Donc, il y a, enfin, vous le dites vous-même que c'est un champ de lutte, que le culturel est un champ de lutte. C'est un champ de lutte qu'il ne faut pas abandonner. Et c'est au contraire un champ de lutte qui est de, enfin, voilà, toujours plus important à mesure que, comme on l'a rappelé, les champs d'expression traditionnels de la politique se réduisent et que le sentiment de pouvoir agir sur le monde se réduit et que le sentiment même illusoire de pouvoir agir sur le monde est absolument nécessaire à la capacité même de le changer. Voilà, arrêtons un peu le pessimisme anxiogène, sera mon point.
Non, attends, si je peux répondre tout de suite à Dan, c'est très compliqué ce que tu dis, parce que là, on est en train de glisser d'une description, d'une analyse formelle relative à des champs culturels et d'une position qui est, j'allais dire, académico-pop, hein, ce qui est vraiment l'idée de l'émission, à des injonctions qui sont « soyez plus critiques » ou « cessons d'être pessimistes », c'est-à-dire des sortes de prises. On assume un type de discours sur le monde et on assume un type de positionnement.
Bah, c'est ce que tu dis qu'on ne fait pas assez ?
Non, ce que je veux dire, c'est que moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ça ne me dérange pas du tout. Et puis après tout, l'optimisme dans la capacité à changer le monde, c'est un point de vue comme un autre. On n'est pas obligé d'être optimiste et on n'est pas non plus obligé d'adhérer à l'optimisme. Comme forme de vision sur le monde, il y a diverses positions philosophiques ou éthiques sur la question. Ce que je voudrais dire, si on en vient sur ce terrain-là, première chose, oui, bien sûr, c'est une contradiction. Et cette contradiction, elle n'a été levée ni par les cultural studies, ni par la déconstruction, ni par les années qui ont suivi. Pourquoi ? Parce que précisément, nous, justement, analystes de la figure pop, pris entre les héritages critiques qui sont les nôtres, la mauvaise conscience qu'il y aurait à les abandonner purement et simplement pour passer du côté de la marchandise, et le fait que nous sommes par ailleurs de très heureux consommateurs de la marchandise. Et ça, je trouve qu'il y a un philosophe qui le dit formidablement bien, c'est Jameson. C'est-à-dire, ou par exemple, Neil Postman, quand il travaille sur la question du divertissement. Le divertissement, dit Neil Postman, moi, j'ai aucun problème avec le fait de me divertir. Là où j'ai des problèmes, c'est quand le divertissement s'étend à toutes les sphères de l'existence. Du journal télévisé à la politique en passant par l'enseignement, il n'y a plus d'espace autre que celui du divertissement. Donc, et quand Jameson dit la grande force du néolibéralisme, c'est de pouvoir intégrer sa critique, c'est exactement la phrase d'Antonio en disant « on ne va pas changer le monde en regardant des séries sur Netflix ». Parce que je te parie que tu peux faire un scénario antilibéral pur et dur
et en faire un super blockbuster. Ça ne pose aucun problème, aucun problème. Tu peux faire des scénarios catastrophistes, anti-écologiques, qui stigmatisent toutes les superpuissances économiques du monde, ça ne pose aucun problème du moment que ça fait des parts de marché et que ça nourrit de la fiction. Donc la contradiction, elle est inhérente au dispositif. Et je trouve, pourquoi je citais Adorno, c'était pas pour dire, mais Adorno a raison, c'était pour dire que quand tu balances ce clip où Adorno dit « Non, je n'achète pas votre satisfaction de vous retrouver tous à écouter John Baez » et qui transforme finalement la dénonciation en marketing. Ce que je trouve intéressant, et le montrer à des étudiants, c'est précisément pour leur montrer ce qu'est un geste critique. Parce que parmi les manières d'annuler la critique, au sens allemand du terme, hein, au sens de l'héritage de la pensée critique post-hegelienne. Ce que je veux dire, ce que je trouve vraiment intéressant dans le geste d'Adorno, c'est de dire la critique ne s'arrête pas à la surface de réalisation de ce qui est montré dans l'action. Et une des manières les plus systématiques dans la politique d'annuler le geste critique, c'est de lui opposer le pragmatisme. C'est-à-dire de lui dire, moi je suis au contact du réel, je veux agir, je veux pouvoir proposer, qu'est-ce que je peux faire d'autre, vous qui ne faites que dénoncer, et finalement de suspendre le geste critique au nom effectivement des réalias dont l'économie fait partie, dont le divertissement fait partie, dont la majorité des satisfactions immédiates de la fiction font partie. Et ce que je trouve très intéressant chez les penseurs radicaux, que ce soit effectivement Adorno, que ce soit Anders, que ce soit... si tu veux, toute une liste de gens qui aujourd'hui font ce travail-là, c'est précisément de ne pas faire cesser le geste en mettant en cause l'adhésion consensuelle à un régime tempéré de la culture, hein, où nous devrions effectivement renoncer, par souci de l'équilibre des hégémonies, hein, nous devrions renoncer à cette exigence critique. Et là où elle
nous... Pour moi, c'est l'inverse. C'est le fait d'être dans une dénonciation systématique qui est du côté des réalia, qui dit, tu vois bien, ça ne sert à rien. Alors, pourquoi tu... Enfin, voilà. Et c'est la dénonciation qui est du côté d'une lucidité, qui revendique la lucidité cynique. Je vois pas... Je pense que l'idéalisme, il est de mon côté.
C'est curieux parce que je pense que vous illustrez, en fait, et bon, moi aussi, plus peut-être du côté de Denis, mais je pense qu'on illustre le fait, comme je disais, on est pris un peu dans une sorte de Groundhog's Day, du jour de la marmotte par rapport aux années 80-90 et les discussions au sein même des cultural studies, c'est-à-dire que, bizarrement, alors qu'on a l'impression que tout a changé, qu'on est vraiment dans un autre siècle et que tout est très différent, c'est curieux parce qu'on est un peu pris par les mêmes enjeux et les mêmes problématiques. Parce que McGinnan caricaturise Fiske en faisant de lui un trop grand apologue, alors que c'est plus complexe quand on le lit. Inversement, on caricaturise Adorno, etc., etc. Et au fond, je pense que c'est un peu une contradiction, que ça soulève le fait qu'on est pris avec ces contradictions depuis l'origine. Et probablement, il ne faut pas oublier qu'Adorno, il est lui-même le symptôme de quelque chose, c'est l'échec de la Révolution. En fait, par rapport aux spartakistes, concrètement, en Allemagne, mais aussi un peu par rapport à la vision de plus en plus noire dans les années 30 qu'on peut avoir à gauche, dans une certaine partie de la gauche, par rapport à la révolution soviétique. Et c'est par rapport à cette idée-là qu'au fond, la révolution, qui a été porteuse vraiment de tout le discours de gauche au XIXe siècle, dans la modernité, il est en crise. Et c'est vrai qu'Adorno, il y a un côté, bon, en plus, après, renforcé évidemment par l'Holocauste, etc. Donc, c'est sûr que la dialectique des Lumières, elle est écrite tout à fait dans le contexte des nouvelles qui parviennent à Adorno, de sa famille, etc., etc., la persécution nazie. Donc, et Minima Moralia, c'est vraiment un des livres les plus noirs, d'un des moments les plus noirs de l'histoire. Donc, c'est sûr qu'on est, avec Adorno, on est vraiment dans un moment très, très dur de l'histoire et par rapport à cette idée d'un triomphe qui, pour lui, n'est pas juste le triomphe de Hitler, c'est pas juste le triomphe du totalitarisme, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste et qu'il voit lui-même dans le capitalisme hollywoodien et américain reflété. Alors bon, on peut évidemment déconstruire ce geste et c'est vrai que Adorno est par ailleurs devenu un peu le croque-mitaine des études pop au sens que c'est vraiment le vieux méchant aigri, etc., etc. Mais bon, d'un côté, je pense qu'il faut comprendre un peu le geste et qu'il faut surtout comprendre qu'il y a cette question-là de la révolution qui est essentielle. Parce que est-ce qu'on peut continuer Et c'est peut-être ça le sens de la critique qu'il va faire à John Boyce, que je n'endosse pas non plus nécessairement, hein, mais c'est vrai que c'est plus l'idée de dire, bon, mais est-ce que ça, c'est la révolution? Et qu'est-ce que devient la révolution quand elle est complètement marchandisée? Et c'est, bon, c'est toute la thèse de la contre-culture reprise par le marketing dans les deux Canadiens, Potter, The Rebel Cell. Donc, ce livre-là qui est assez intéressant dans les années 80, qui reprend un peu ce geste. Oui, Denis, oui, excuse-moi.
Oui, mais ce que tu dis, moi, ça ne me dérange pas du tout que l'on décrive une position, que l'on constate qu'une position est en pleine contradiction, parce que nous sommes dans un moment de l'histoire où la définition même de la culture telle qu'on la pratique, c'est l'injonction contradictoire. La définition du néolibéralisme, c'est l'injonction contradictoire permanente dans tous les domaines. Donc, que l'on soit pris entre… c'est ce que dit magistralement, d'ailleurs, la phrase de Gramsci que cite Calvino et qui est un des mottos de vie que Calvino se donne, pessimisme de l'intelligence, optimisme de la volonté. Donc, Anne met l'accent sur l'optimisme de la volonté, sinon que faire ? Et il faut bien faire quelque chose. Et moi, j'ai mis l'accent dans un moment sur le pessimisme critique de l'intelligence, qui est que si on regarde le mécanisme de fonctionnement, effectivement, ça génère de l'aliénation. C'est même la définition du dispositif. Donc, cette contradiction, elle ne me gêne pas, parce que je trouve que les contradictions sont fécondes quand on les articule et qu'on produit des objets, et qu'à l'issue d'une analyse, on peut dire à des étudiants, ou on peut travailler avec des étudiants, ben oui, mais le discours idéologique ou le discours politique du prisonnier de McGowan, c'est pas exactement le même que celui de telle ou telle série, ou le féminisme progressiste que vous décrivez dans telle circonstance, eh ben, il se construit de telle ou telle façon. Par exemple, le fait de faire une lecture féministe des rôles féminins de Walking Dead, ça se fait avec quel type d'outils pour aboutir à quoi, hein. Donc je pense que la contradiction, elle est pas agréable, elle est inconfortable, mais c'est une dynamique de pensée. Et pour ce qui est de John Baez, c'est pas quelqu'un qui vient à ce point de la culture rock comme moi, qui va balayer du revers de la main la situation dans laquelle la critique de la culture nous a placés. C'est-à-dire que le problème des cultures subalternes, pourquoi les gens de Birmingham inventent la question des cultures subalternes ? Ben parce qu'ils sont bloqués entre le plaisir qu'ils ont de la culture du rock'n'roll et l'évidence du marché que cette même culture est en train d'imposer. D'où l'idée de créer des subcultures, c'est-à-dire l'idée de se dire il y a des possibilités souterraines, sous-jacentes, critiques, qui vont pouvoir résister, hein, et dans lesquelles vont se rejouer courant après courant le débat entre formes institutionnalisées, légitimes des traîtres qui ont perdu leur street credibility, versus surgissement, néo-surgissement permanent. Et ça, c'est l'histoire de la culture punk à l'intérieur du mainstream du rock. C'est tout. Donc, pourquoi Birmingham s'est tellement focalisé sur la musique ? C'est parce que la musique est un lieu extraordinaire pour voir la stratégie de récupération, hein, ce qu'on appelle la récupération dans ce système-là, la stratégie de récupération versus l'authenticité subalterne. Et c'est pareil pour la BD, c'est pareil pour le cinéma, c'est pareil pour la littérature. Combien d'appréciations critiques des auteurs que nous aimons consistent à dire, tant qu'il était primé à Sundance, son petit film policier avec peu de budget, peu de moyens, il était authentique. Dès lors qu'il passe dans les mains des studios, il perd son authenticité. On le voit, on le sait pour la BD indépendante, on le sait pour le cinéma, on le sait pour la musique. Et c'est une espèce de rituel de la contradiction qui a à la fois son propre mécanisme instituant, mais qui, et d'autre part, qui est porteur effectivement d'une position de contradiction de laquelle, moi je pense, à la différence peut-être d'Anne, nous ne sortirons pas. Parce que c'est le système diastole-systole de la production de la culture médiatique.
Je pense pas qu'on en sortira, mais tu as, contrairement à Antonio qui parlait de jours sans fin, et moi j'aime pas cette idée qu'on ressasse, en fait, parce que j'ai l'impression qu'on avance, voilà, tant bien que mal. Et quand tu disais on peut produire tel ou tel film avec des positions, avec telle ou telle position, et ça sera un blockbuster, si c'est un blockbuster, ça impliquera une évolution des tropes possibles et donc une réorientation légère, mais à chaque fois de cette récupération culturelle dont tu parles. Le système de récupération, il fonctionne sur les trucs qui marchent, et donc il il enregistre des avancées idéologiques permanentes. L'exemple de l'écologie est très frappant aujourd'hui. On a une génération qui est, ou du féminisme, on a une génération qui est très, très globalement acquise à des positions écologistes sans forcément d'autres répercussions. C'est toujours la question des autres répercussions. Mais voilà, les gamins aujourd'hui, ils sont tous convaincus parce que toutes leurs fictions leur disent et parce que les manuels scolaires en sont venus à intégrer ça et la moindre pub à intégrer ça. Enfin, tu vois, du greenwashing à haute dose. Toujours est-il que le discours écologique qui n'existait pas dans le domaine public, il y a en dehors de niches post-hippie déconsidérée avant le début des années 2000, est désormais hégémonique. Alors, on peut estimer que c'est une récupération néolibérale qui permet de mettre un gros patch sur le problème et de le laisser de côté, et certes, hein, c'est en partie ça, néanmoins, ces questions-là sont désormais centrales et ne peuvent plus être ignorées comme elles l'étaient. Elles sont désormais traitées par le système. Donc, tu vois, voilà, éventuellement maltraitées, éventuellement sous-traitées ou traitées de manière à ne pas les régler, toujours est-il qu'elles sont là. C'est tout ce que je dis.
Ça rejoint la question de la contradiction. Je pense que c'est Stuart Hall qui cite Keith Richards, qui dit « À un moment donné, je me suis rendu compte que Decca, donc la compagnie de disques pour laquelle il travaillait, réinvestissait tout notre pognon dans des radars qui allaient bombarder Vietnam. » Et donc là, c'était l'exemple. Donc évidemment, c'est Keith Richards. Il était probablement sous l'héroïne au moment où ça s'est produit comme révélation et épiphanie. Mais c'est vraiment le moment où il comprend que tout le côté de leur contestation radicale, Bad Boys, Rolling Stones, rock and roll, etc., au fond, était en train d'alimenter littéralement la machine de guerre américaine. Et je pense que c'est ce à quoi faisait allusion la veine franco-ortienne. C'est ce à quoi faisait allusion McGinnan quand il dit qu'il faut revenir à l'économie politique dans l'analyse de ses œuvres, et on ne peut pas le mettre tout du côté des usagers et de la liberté supposée des usagers par rapport au discours qui leur est servi. Et il dit qu'il faut que les cultural studies se réinventent en reprenant à nouveau en compte l'économie politique. Et ça, c'était dans les années, fin des années 80, début 90. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a un effet. Donc, évidemment, là, l'histoire ne revient jamais telle qu'elle. Donc, c'était un peu une boutade par rapport à ce film que j'aime beaucoup de Groundhog Day, qui d'ailleurs revient, le micro-genre, est plus en force que jamais, des loops temporels. Et ça aussi, c'est un symptôme, je pense, de quelque chose. On a de plus en plus de fictions qui sont prises dans des boucles temporelles. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de faire une sorte d'extension de cette boucle dans la culture pop par rapport à quelque chose qui est perçu. Et donc, je pense que c'est vrai que nous sommes un peu pris et que, au fond, et on en parlait un peu aussi quand on parlait de ton livre, ce qui est intéressant, c'est justement que ça donne différentes... On est pris dans ça et après, il y a différentes manières d'envisager cela, d'essayer de produire du sens par rapport à ça, etc. Mais je pense que le nœud de l'histoire, quand on travaille sur la culture pop, c'est qu'on ne peut pas ignorer l'existence, c'est l'éléphant dans la chambre, c'est l'existence de ces immenses machines, d'ailleurs plus concentrées que jamais. C'est-à-dire maintenant, c'est vraiment, on est rendu à 5 ou 6 méga-corporations. Donc, on est dans une situation de quasi-monopole. Ce qui s'était produit pour les comic books entre Marvel et DC, Pepsi-Coca, etc., etc. Bon, on est rendu pratiquement à quelque chose avec Disney qui a racheté Marvel et Star Wars. On est vraiment rendu à une situation, du point de vue de l'économie politique, à une situation tout à fait particulière. Une corporation qui détient les droits de à peu près tout l'imaginaire, toutes les figures de l'imaginaire de 80% de la population.
C'est très, très intéressant ce que tu dis, parce que ça fait partie des thématisations les plus partagées aujourd'hui entre l'espionnage, je pense à une série comme Blacklist, par exemple, ou le Marvel, c'est-à-dire cette figure de la corporation tentaculaire qui dirige absolument les planètes, le monde, avec des réseaux secrets, qui est en train d'instiller un conspirationnisme.
Dans The Boys, vous avez carrément un truc sur les super-héros eux-mêmes.
C'est ça, tout à fait. Donc, cette figure-là, qui est une des figures puissantes de l'imaginaire paranoïaque et conspirationniste, et qui appelle justement l'émancipation grâce à des héros d'un système tentaculaire, et on est en train de réaliser grâce à ces productions-là en temps réel. Donc, c'est très, très. Et là, on voit là une très, très belle contradiction. Hein, et ce que je veux dire par là, c'est que ce que je trouve très intéressant, c'est pour des raisons tout à fait différentes, là, je suis en train de lire un.
L'obsolescence de l'homme de Günter Anders. Et il dit quelque chose qui est très intéressant pour les gens qui travaillent sur les objets qui sont les nôtres. Il dit en fait qu'il y a un usage philosophique, pour lui, de l'exagération. Et il dit qu'en fait, l'exagération critique, celle qui consiste à faire saillir les problèmes, est légitime lorsque les problèmes sont ignorés, que les objets sont minorés. Donc, je crois que quand j'utilise Adorno ou Anders auprès de mes étudiants, ce n'est pas tellement pour leur dire leur radicalité, c'est ça qu'il faut suivre, c'est que leur radicalité est une propédeutique. Leur radicalité est une manière de faire saillir les questions. Et non, vous ne pouvez pas consommer ce que vous consommez de façon heureuse et simple, et vous ne pouvez pas vous abandonner aussi simplement, vous qui d'un côté refusez qu'on exploite telle ou telle situation, vous êtes en train par ailleurs de. Et quand tu mets les gens dans l'inconfort, tu as plusieurs types de réactions, tu as « on s'en fout, c'est pas grave, on consomme », ou tu as « tiens, oui, effectivement, on peut penser ce problème-là ». Alors là, c'est vraiment des choix méthodologiques, des choix d'approche existentielle, des choix politiques, enfin ça c'est tout à fait différent. Donc pour moi, je ne suis pas en train de défendre une sorte de radicalité néo-frankfurtoise, retournons-y, etc. Pas du tout. Je suis en train de dire que c'est un outil extraordinaire de prise de conscience, de lucidité, et qu'à ce titre-là, la contradiction, et notamment la contradiction théorique, est absolument vitale justement pour pouvoir, on tombera peut-être d'accord là-dessus, réengager des espaces d'action qui peuvent être extrêmement locaux. Hein, mais à mon sens, ce type d'action, elle peut se faire d'autant mieux qu'on a été, j'allais dire, un peu violenté par la contradiction. Hein. Sinon, je ne suis pas très Jenkinsien, hein. Sinon, ça devient Jenkins. Et par contre, Antonio, bah, écoute, si tu es en train de chercher des émissions, tu en as au moins deux belles qui arrivent. La loupe temporelle, comme effectivement, oui. Effectivement au genre. Parce que là, ça tombe à j'ai continué en ce moment, hein, que ce soit dans les séries ou dans les longs métrages, on en a autant qu'on en veut. Et puis, ben, on le voit bien, ça fait plusieurs fois qu'on discute et que ça revient dans l'émission, la question d'une discussion sur les cultural studies. Parce que de la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de brûler l'ancien structuralisme, de brûler l'ancienne narratologie du temps au profit d'une narratologie de l'espace, etc., etc., on passe notre temps à faire des turns. Ben, il faudrait peut-être aussi mettre sur la sellette ou au tribunal de l'interprétation rétrospective la question des cultural studies qui sont à la fois en train de s'imposer et de régner en maître, hein, il n'y a qu'à voir la fermeture à vitesse grand V des départements de lettres dans beaucoup d'universités anglo-saxonnes au profit des études médiatiques ou des cultural studies, chose que tu avais bien vue il y a maintenant une quinzaine d'années en France, bien anticipée avec le collège de Dijon. Ouais, avec ça serait très très intéressant de s'interroger effectivement, bon ben voilà, 2021, quid des grands axes qui ont été ceux des études culturelles, quid effectivement de la situation de partage dans les équilibres interprétatifs entre des discours qui sont souvent incompatibles ou qui sont en train de créer des compatibilités à nouveau frais, et c'est très bien. Par exemple, la question de l'articulation entre études culturelles et esthétiques, qui est un vrai gros morceau.
Oui, ben d'ailleurs, je suis en train de travailler un peu là-dessus. C'est peut-être pour ça aussi que je vous en ai un peu parlé, parce que je suis en train de préparer un truc sur l'introduction aux théories de la culture populaire, justement. Et donc, il y a tout un morceau sur l'histoire des cultural studies en rapport avec la culture populaire, parce qu'on ne peut pas non plus… Ça ne se réduit pas que à la question de la culture populaire, les cultural studies, mais c'est un vecteur peut-être quand même principal. Des fois, ce qui est intéressant, c'est d'éclairer… Et c'est ça le sens des discussions, d'éclairer des positions par rapport à des contradictions comme celles que je pense on a un peu réussi à dégager et qui, c'est vrai, conditionnent quand même beaucoup nos existences, autant du côté de ce que nous faisons en tant qu'interprète, en tant que popologue, si l'on veut, mais aussi en tant que citoyen, citoyenne, évidemment.
Mais ce qui est super, c'est qu'effectivement, pour faire ressortir la contradiction, il faut avoir des points de vue contradictoires. Donc voilà, là, on est...
Oui, ça marche. Et d'ailleurs, c'est bien que ça n'ait pas tourné aux confrontations habituelles dans la télé qui m'insupportent, en fait, ces sortes de fausses polémiques qui sont créées tout le temps dans les plateaux télé. Mais donc, merci beaucoup, Anne, à nouveau.
Merci à vous deux.
Merci, Denis, d'être là aussi à nouveau. Merci à tous ceux et celles qui nous écoutent. Et à une prochaine émission bientôt.